Alors, bonjour à tous. L'an dernier a été marqué par le centenaire de la Révolution russe. La seule révolution ouvrière victorieuse de l'histoire humaine qui a porté à sa tête les ouvriers, les paysans de Russie, sur le sixième de la surface du globe. Il faut mesurer l'ampleur de l'événement. En pleine guerre mondiale, la classe ouvrière russe s'est soulevée, a renversé le tsar en quelques jours et surtout a instauré un pouvoir ouvrier à travers les soviets lors des 10 jours qui ébranlèrent le monde lors de la révolution d'octobre. Depuis, le monde a connu bien des soulèvements populaires, bien des révolutions, parfois victorieuses, parfois réprimées. Certaines ont changé le pouvoir en place, mais aucune n'a réussi à ébranler le monde ni ouvert la perspective de changer radicalement la société. Car aucune n'a été dirigée par un parti communiste révolutionnaire, et c'est cela qui a manqué, bien plus que les révoltes et les révolutions dans le siècle écoulé. Mais avant d'en arriver à février 17, il a fallu déjà surmonter l'abattement général qui s'était emparé de la classe ouvrière avec la guerre. Démoralisation d'autant plus profonde que les dirigeants des partis socialistes, des syndicats, les avaient trahis en soutenant le déclenchement de la boucherie mondiale. Mais même dans les heures les plus sombres de la Première Guerre mondiale, des militants ont continué de défendre l'idée qu'une révolution était possible, indispensable et vitale, et que c'était la seule façon de hâter la fin de la guerre. Et ils l'ont fait en essayant de reconstruire les liens militants qui existaient entre eux, de reconstruire un parti international des travailleurs. Dès le début, ces militants étaient non seulement à contre-courant, mais réprimés. Car en temps de guerre, prôner publiquement son hostilité à la guerre, sans même parler de révolution, c'était risquer la prison ou le poteau d'exécution. Ces militants ont entretenu une flamme, un espoir, certes ténu, mais qui a résisté jusqu'à ce que les choses changent. En 1917, après 3 ans de guerre mondiale, l'horreur de la guerre et des privations a poussé le peuple russe à la révolte et le régime tsariste a été renversé en quelques jours. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là, comme l'auraient souhaité les dirigeants des grandes puissances alliées de la Russie et comme l'ont regretté l'an dernier beaucoup de ceux qui évoquaient la révolution russe. Si c'est bien un gouvernement bourgeois qui a pris le pouvoir dans un premier temps en février 17, la classe ouvrière s'est organisée dans les soviets. Elle a construit son propre pouvoir face au gouvernement bourgeois. Les objectifs de la révolution de février n'étaient pas communistes. C'était, je le rappelle, la paix, le pain et la liberté. Mais aucun des gouvernements qui se sont succédés jusqu'en octobre n'a été capable de satisfaire la moindre de ces revendications. La raison en est simple. Tous les gouvernements étaient respectueux de l'ordre social, respectueux des accords de brigands des grandes puissances qui cherchaient à se partager le monde à travers la guerre, et respectueux de la propriété privée. Au cours des mois qui séparent février d'octobre, les bolcheviks ont gagné l'immense masse des ouvriers, des soldats et des paysans. Ce sont les événements qui les ont convaincus que rien ne changerait sans rompre avec les partis liés aux classes dominantes, sans que les masses pauvres prennent elles-mêmes le pouvoir. C'était la seule façon d'obtenir la paix, le pain et la liberté. Cet approfondissement de la révolution était nécessaire, mais il n'aurait pas suffi à lui seul pour aboutir au renversement de la bourgeoisie et à la prise du pouvoir par les soviets d'ouvriers, de paysans et de soldats. Pour cela, il fallait un parti, le parti bolchevique de Lénine et Trotsky. Après avoir relevé en 1914 le drapeau de l'internationalisme abandonné par la social-démocratie, les bolcheviks ont été capables de donner une perspective à cette révolution pour qu'elle aille jusqu'au bout, jusqu'à la prise du pouvoir. Les travailleurs, les prolétaires au sens large, sont une classe opprimée économiquement, socialement, culturellement et politiquement. Tout est fait pour que les travailleurs se considèrent comme n'étant pas capables, pas à la hauteur et laissent le pouvoir à d'autres. On nous dit qu'on coûte trop cher, qu'on n'est pas assez productif, pas assez ceci ou cela. Mais le monde repose sur nous. Sans parti, dont l'objectif est de supprimer le capitalisme et la propriété privée des moyens de production, les travailleurs ne peuvent pas changer la société. Bien des soulèvements ont eu lieu depuis 17, de la Chine à Cuba, à la Pologne dans les années 80, en passant par l'Iran à l'époque du Shah ou au printemps arabe plus récemment. Si ces soulèvements n'ont pas changé la société, ce n'est pas la faute des masses mobilisées, mais celle de leur direction politique. La nature a horreur du vide. En l'absence de parti communiste révolutionnaire, ce sont d'autres forces politiques qui dirigent les soulèvements. Les curés en Pologne, les mollahs en Iran, des dirigeants qui restent sur le terrain national sans remettre en cause l'ordre impérialiste à Cuba ou en Chine. Dans aucune de ces situations n'existait de parti communiste révolutionnaire capable de mener des révolutions jusqu'à la libération des opprimés. Alors plus près de nous et dans notre pays, cette année 2018 est celle du cinquantenaire de mai 68. Cette révolte a marqué le pays et les générations qui l'ont vécu, même si ce fut loin d'être une révolution. Partie de la jeunesse étudiante, cette révolte s'est vite propagée à la jeunesse ouvrière et au monde du travail. Le mouvement étudiant a entraîné la sympathie des travailleurs et poussé les syndicats à appeler à une grève générale, entraînant 10 millions de grévistes et permettant d'arracher notamment une augmentation de 35% du SMIC. Mai 68 n'était pas une révolution, mais la plus grande grève générale de l'histoire du pays, et ce n'est pas rien. Toute une génération a appris, en le vivant, que la force des travailleurs, c'est la grève. Quand ils s'arrêtent, les travailleurs, plus rien ne marche. Mais la direction politique de mai 68, ses dirigeants, n'étaient pas des communistes révolutionnaires. À l'exception notable d'Alain Cribin qui se réclame toujours de mai 68, tous les autres dirigeants sont devenus des politiciens ou des intellectuels bourgeois, bien intégrés, à l'image d'un Cohn-Bendit, fan aujourd'hui de Macron. Le Parti communiste était implanté et influent à l'époque, mais sa perspective n'était pas de s'appuyer sur les travailleurs en grève, de les organiser. Le PC s'était opposé au mouvement dans la jeunesse étudiante et il était rejeté dans ce milieu. Il n'a pas voulu prendre le risque de se faire rejeter aussi dans les usines. Voyant que la révolte les débordait largement, le PC et la CGT qui l'influençaient à l'époque ont fini par appeler à une grève générale d'une journée pour tenter de reprendre la tête du mouvement. Quand on veut arrêter un train en marche, évidemment, c'est plus facile, c'est plus efficace de se mettre dans la locomotive. Mais contrairement à leurs attentes, la grève générale symbolique du 13 mai ne s'est pas limitée à ce jour-là. Le mouvement n'a fait au contraire que s'étendre rapidement dans les jours qui suivirent, et les grèves sauvages avec occupation d'usines se sont multipliées, avec souvent à leur tête des militants du PC et de la CGT. Dans beaucoup d'entreprises, les militants syndicaux disaient aux travailleurs « Rentrez chez vous, on garde l'usine ». Et si les jeunes ouvriers allaient rejoindre la jeunesse étudiante dans les manifestations de rue, beaucoup de travailleurs sont effectivement rentrés chez eux. Depuis 10 ans, De Gaulle était à la tête de l'État, et les partis de gauche décrivaient son pouvoir comme un pouvoir fort contre lequel on ne pouvait pas faire grand-chose. La seule perspective était de propulser un politicien bourgeois de la 4e République, Mitterrand, un des responsables de la guerre d'Algérie, comme représentant de l'Union de la gauche, et comme celui qui allait changer la vie. Les syndicats se sont engouffrés dans la négociation des accords de Grenelle, signés en quelques jours, et les partis de gauche dans les élections législatives. Quand Georges Seguy, le secrétaire de la CGT, vint présenter les résultats de sa négociation aux ouvriers de Renault-Billancourt, il comptait bien se faire acclamer pour les accords obtenus. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Et il s'est fait huer par les travailleurs, car les aspirations profondes du mouvement allaient bien au-delà de Grenelle, qui ne comportait même pas le retour aux 40 heures obtenues 32 ans plus tôt, en 1936. Le mouvement de grève s'approfondit encore, et De Gaulle est vite apparu comme dépassé. Les partis de gauche vont trouver dans les élections législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale une porte de sortie, s'engouffrant dans la perspective électorale d'une victoire de la gauche. Mais ce sera la droite qui sortira largement victorieuse de ces élections, ce qui n'est paradoxal qu'en apparence. Dans les élections, des bonnes sœurs aux militaires, en passant par les rentiers, tout le monde vote. La force des travailleurs n'est pas dans les urnes, mais dans la rue et dans la grève. En mai 68, il n'existait pas de parti communiste révolutionnaire. Le PC, très influent à l'époque dans la classe ouvrière, était devenu, depuis le début des années 30, un parti électoraliste, qui, après avoir mis son influence au service de De Gaulle pendant la Résistance, la mettait au service des ambitions de Mitterrand. Les groupes d'extrême-gauche existaient bien au sein de la jeunesse, mais ils étaient loin de représenter un véritable parti, et était de toute façon largement coupée de la classe ouvrière. La situation de 68 n'était pas révolutionnaire, mais si le pouvoir de De Gaulle a tremblé, c'est plus de peur que de la menace d'être renversé par une révolution. Mais 68 a amené dans les syndicats, les partis de gauche, toute une génération de militants, en particulier dans la classe ouvrière, qui se sont retrouvés pour l'essentiel au PC, car c'était le parti présent partout dans le pays et dans les entreprises. Les groupes d'extrême-gauche ont refusé de s'unir dans un parti des idées de mai 68, un parti révolutionnaire qui aurait pu regrouper au moins temporairement tous les courants révolutionnaires. C'est ce que nous avions proposé à l'époque. Du coup, une toute petite minorité, des dizaines de milliers de jeunes attirés par mai 68, ont rejoint les groupes d'extrême-gauche, dont la plupart ont disparu aujourd'hui. Les événements de mai 68 ont réintroduit le drapeau rouge et le drapeau noir dans les cortèges des manifestations ouvrières, alors qu'ils en avaient disparu depuis longtemps, remplacés par le drapeau tricolore et la Marseillaise. Ce sont les gauchistes, vilipendés par le PC, qui les ont réintroduits dans la vie politique, et c'est un des acquis de mai 68. De ces événements, on peut tirer la leçon que les explosions sociales ne préviennent pas avant de survenir, et ça, ça nous rend optimistes pour l'avenir. Cinquante ans après mai 68, il est indispensable de maintenir le drapeau rouge, le drapeau que nous ont transmis les révoltés de tout temps, le drapeau rouge du mouvement ouvrier, du mouvement communiste, et de ne surtout pas se taire, quand bien même on serait à contre-courant. L'exemple des femmes qui ont osé affirmer leur refus du harcèlement avec le hashtag MeToo ou Balance ton porc ne peut que nous inspirer. On peut imaginer la difficulté pour chacune d'entre elles de faire ce choix, de raconter publiquement son histoire après avoir subi une agression. Pour autant, leur colère était plus forte. Elles ont affirmé haut et fort que personne n'a le droit de les agresser. Elles ont osé dire non, et c'est un non qui ne se discute pas. Eh bien, ce refus de subir, il faudrait qu'il émerge aussi de la classe ouvrière. Non, il n'est pas acceptable qu'un jeune n'ait comme perspective que d'être précaire toute sa vie. Non, on ne peut pas vivre dignement avec un SMIC ou au RSA. Et comment accepter de passer chaque jour devant des SDF ou un camp de réfugiés sans être révolté? Ce que la classe ouvrière et toute l'humanité subit aujourd'hui doit nous donner la force de dire nous aussi non. Car même minoritaire, la lutte peut changer l'ambiance, ou au moins modifier un peu la situation. C'est ce qu'ont montré aussi les dix aides-soignantes grévistes de la maison des Opalines, la maison de retraite des Opalines dans le Jura, qui ont fait 117 jours de grève l'année dernière avant de faire plier leur patron. Grâce à leur détermination, elles ont redonné une visibilité, une dignité aux salariés des EHPAD pour faire entendre leur ras-le-bol et dénoncer la violence quotidienne qui s'exerce tant à l'encontre des salariés que des résidents. Alors oui, militer, défendre des idées, c'est plus que jamais d'actualité. Et pour cela, il faut un parti pour la classe ouvrière. Mais pas n'importe quel parti. Ce n'est pas d'un énième parti de gauche dont nous avons besoin, comme l'a dit Mario tout à l'heure. Pas d'un parti qui donnera à nouveau comme perspective une bonne union de la gauche en vue de gagner les élections et de gouverner. Mais d'un parti révolutionnaire, comme l'ont été le PS et le PC à leur origine, du temps de Marx, Engels ou Lénine. La conscience de classe n'a jamais été suspendue en l'air. Elle n'est jamais venue naturellement. Il a fallu des femmes et des hommes pour la matérialiser, la rendre concrète. Des militants pour défendre inlassablement cette perspective autour d'eux. Et ces militants, pour tenir le coup dans une période de profond recul comme aujourd'hui, ont besoin de se regrouper dans un parti aux idées claires qui leur donne les armes idéologiques pour comprendre l'évolution du monde et l'expliquer autour d'eux, qui leur donne des perspectives pour imaginer une société débarrassée de l'exploitation et enthousiasmer des jeunes et des travailleurs à s'y consacrer. Le capitalisme est un scandale permanent. Des bébés jusqu'aux personnes âgées, nous sommes tous concernés. Lactalis vend du lait infantile contaminé aux salmonelles. Le gouvernement aide les patrons à licencier les salariés plus facilement. Et les personnes âgées qui ont cotisé toute leur vie sont privées du droit de vivre dignement leurs dernières années. Cette société est révoltante. Et pendant ce temps, un milliardaire s'amuse à envoyer une voiture de luxe dans l'espace parce que ça lui chante, et parce qu'il en a les moyens, et que l'argent décide de tout. Alors oui, il faut construire un parti communiste révolutionnaire, qui vise clairement le renversement de la bourgeoisie et de la société capitaliste. Face à l'horreur de cette société et au risque permanent de l'aggravation de la situation par une crise ou une guerre, il faut clairement affirmer que l'objectif est de détruire le capitalisme. Bien sûr, on ne peut pas créer ce parti artificiellement. Il émergera des luttes. Car ce qu'on nomme un parti devrait être plus vaste, plus influent que ce que nous sommes aujourd'hui. Comme a pu l'être le PC autrefois, ses militants seront présents dans les entreprises, dans les usines, dans les facs et les lycées, au pied des barres d'immeubles des quartiers populaires. La survenue des luttes ne dépend pas de nous. Mais ce qui est à notre portée, c'est de construire dès maintenant les bases de ce parti. Car comment résister à la pression du découragement général en restant isolé? Être à contre-courant et le rester ne peut pas se faire sans se rassembler et se serrer les coudes. Cela ne peut pas se faire sans conforter ses convictions au travers des discussions et des liens que l'on tisse entre travailleurs qui partagent les mêmes idéaux. Se réunir, se rassembler dans un parti, c'est aussi passer de la passivité à l'action. Il est démoralisant d'assister sans rien faire et sans rien dire aux injustices et à toutes les horreurs qui se déroulent dans le monde. Mais y répondre, ne serait-ce que par la parole, communiquer une révolte, expliquer la situation politique à ceux qui nous entourent, c'est déjà agir et renforcer notre camp. Il est à la portée de chacun de participer d'une façon ou d'une autre à la construction du parti nécessaire pour changer la société. Même à contre-courant, il est possible de faire vivre et circuler ses idées. C'est sans doute la plus belle tâche à laquelle on peut s'atteler aujourd'hui. Car n'en doutons pas, tôt ou tard, les opprimés se lèveront et ils trouveront dans ces idées la possibilité de mettre tous les moyens de production au service de l'humanité tout entière et de faire en sorte que les immenses possibilités matérielles, techniques, scientifiques soient un jour la base d'une société libre et fraternelle, assurant un avenir de paix et de progrès matériel à tous. En tout cas, c'est notre conviction et notre espoir.